Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table. Binge Audio présente.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je crois que je m'avance pas beaucoup en supposant que nous sommes nombreuses et nombreux à ne ressentir qu'une excitation très très modérée à l'idée de voir débuter instamment la campagne pour l'élection présidentielle de 2022. Que ce soit du point de vue des thématiques, du casting, des polémiques, que la longue séquence risque de charrier, rien de tout ça ne fait vraiment envie. D'autant qu'on a la sensation, à force d'être abreuvé de la parole politique des uns et des autres, de savoir par avance qui dira quoi et sur quel sujet. Évidemment, on peut encore être surpris, en bien comme en mal. Mais il n'empêche, la familiarité avec la langue de notre personnel politique nous rend certainement un peu blasés, un peu usés, au point qu'on finit par ne plus trop prêter attention à ce qu'ils nous disent vraiment. C'est là que l'apport de la science, de l'analyse, de l'étude des discours peut s'avérer très enrichissante et très instructive. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
Notre invité, c'est le linguiste et historien Damon Mayafri. Il est chercheur au CNRS, chargé d'enseignement à l'Université Côte d'Azur et il est surtout spécialiste de l'analyse du discours assisté par ordinateur. C'est exactement ce qu'il a fait avec son équipe pour composer son dernier livre, Macron ou le mystère du verbe, paru aux éditions de l'Aube. Une centaine de discours du chef de l'État ont été soumis à l'intelligence artificielle, comparés à des prises de parole de ses prédécesseurs, de Charles de Gaulle à François Hollande, mais aussi de ses contemporains comme Mélenchon, Le Pen, Hamon et bien d'autres. 1000 textes en tout ont été rentrés dans la machine, et il en sort quoi ? Eh bien, c'est Damon Mayafri qui répond.
Le constat le plus simple linguistique, si l'on peut dire, c'est même infralinguistique, que la machine fait, c'est que Macron aime, parmi les 26 lettres de l'alphabet, une lettre en particulier, et plus que les autres, hein, toujours pareil. Et cette lettre, c'est la lettre R. Parce que donc Macron va utiliser très souvent des mots du mouvement, et le mouvement renvoie historiquement à la gauche, hein, dans la définition des sciences politiques, le parti du mouvement, c'est le parti de la gauche, et il va utiliser donc ces mots plutôt de gauche, mais il va les assortir du préfixe R, qui lui, ce préfixe, renvoie plutôt à la réaction, au retour en arrière, et donc plus à une sensibilité de droite. Pour ça que je disais des mots de gauche avec une lettre de droite. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Donc je peux donner plusieurs exemples. Souvent, on n'illustre pas assez. Macron va rarement parler de la naissance, qui serait simplement à gauche, mais de la renaissance. Il va rarement parler de la fondation, qui serait révolutionnaire et complètement de gauche, mais il va parler de la refondation. Il ne va pas dire créer, mais recréer. Il ne va pas dire instaurer, mais restaurer. Et ainsi, avec juste cette lettre R, sur un lexique plutôt marqué à gauche par ailleurs, il va précisément réaliser son en même temps de gauche, et en même temps de droite. Et bien ça, là, la machine, effectivement, aveuglément et en comptant toutes les lettres, sans aucun a priori, a pu le repérer. Mais de la lettre, on peut passer à des enchaînements de lettres, des préfixes ou des suffixes, mais Macron adore le suffixe « sion », T-I-O-N. Il utilise ce suffixe bien plus que De Gaulle ou Pompidou, Mitterrand ou Sarkozy. Et c'est très significatif, évidemment, puisqu'on sait que dans la langue française, le suffixe « sion » à la fonction de marquer le mouvement précisément, à marquer le processus, innovation, refondation, je disais même révolution. Eh bien, Macron, donc, le suffixe « sion », en quelque sorte, met les mots en marche. met les mots dans une dynamique. Et Macron donc le ressent, ou en tout cas utilise, surutilise ce suffixe « sur ». De la lettre, on peut passer au suffixe, mais après on peut parler des mots en eux-mêmes. Et là, il y a une série de mots qui caractérisent Macron, soit par la négative, soit par le positif. Donc les mots qu'il surutilise sont précisément ces mots qui sont désidéologisés, mais qui marquent la dynamique du discours. Donc j'y reviens, par exemple « transformation », c'est son mot préféré. Et puis d'autres mots comme « territoire » et « territoire » au pluriel, c'est une très forte caractéristique d'Emmanuel Macron. Et là aussi, c'est un terme qui est intéressant, puisque dans la politique française et l'organisation politique française, les territoires sont précisément une entité apolitique. Je ne sais pas exactement, en ce qui me concerne, ce que c'est qu'un des territoires ou un territoire. Je sais, en revanche, qu'ils n'ont pas de représentation politique. La commune a son maire, la circonscription a son député, la République a son président, mais les territoires, je ne sais pas qui sont les élus. Donc voilà, c'est des entités qui sont un peu apolitiques et que Macron va bien aimer. Voilà, il y a une série de noms. Il y a après des enchaînements élémentaires, grammaticaux, qui caractérisent aussi le discours de Macron. Par exemple, Macron adore l'enchaînement non-adjectif, c'est-à-dire qu'il va rarement parler de la transformation tout seul. Il va dire transformation profonde, transformation inédite, transformation réelle. Mais il va toujours appuyer par un adjectif qualificatif son le substantif qui porte la phrase qu'il prononce. Et je pourrais aller encore plus loin dans le cadre syntaxique. Macron a un usage très singulier des verbes parce qu'il va très souvent utiliser de manière intransitive des verbes transitifs. Un verbe intransitif, c'est par exemple le verbe « dormir » ou « sauter ». Je dors, il ne faut pas de complément d'objet. Il ne faut pas de précision sur le fait que l'on dort. On dort, point final. Eh bien, Macron va utiliser des verbes qui, eux, sont transitifs, comme par exemple « transformer », mais de manière intransitive. C'est-à-dire « je veux transformer », point, sans complément d'objet. Tant et si bien qu'on est... On y revient dans cette tension vers le mouvement. Il s'agit de transformer sans qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut transformer. Je veux réformer, point, sans complément d'objet. Donc voilà, ça aussi, la machine remarque ce genre de tournures syntaxiques qui sont très caractéristiques de Macron. Et je pourrais continuer dans des choses encore plus complexes, qu'on appelle des motifs linguistiques plus complexes, c'est-à-dire des combinaisons d'un lexique, donc de mots, avec des tournures syntaxiques particulières, ou des temps utilisés. Par exemple, quand il va utiliser le mot « transformation », et dans le mot « transformation », on se rappelle que c'est le lexique du mouvement que je viens de décrire, c'est aussi un mot avec un suffixe « sion » que je viens de décrire aussi, eh bien, dans la phrase où il y a « transformation », il va très souvent utiliser soit le futur comme verbe, soit le subjonctif, tant et si bien que, là encore, la transformation qu'il nous vend est en quelque sorte factorisée par le fait que c'est dans un futur à venir, ou dans un subjonctif, donc dans une sorte d'incertitude, une tension incertaine, et ce qui favorise encore la dynamique du discours, etc., etc.
Et il y a un élément qui est particulièrement intéressant, c'est non pas ce qu'on trouve, mais ce qu'on ne trouve pas dans les discours. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes arrêté. Alors, qu'est-ce qui est absent de ces discours d'Emmanuel Macron? Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour identifier ce qui, paradoxalement, n'est pas là?
La statistique est bien faite pour ça, c'est-à-dire qu'on peut voir les éléments qui sont surutilisés statistiquement, mais le même calcul en quelque sorte symétrique permet de voir les éléments qui sont sous-utilisés, toujours en comparaison avec les autres présidents. Alors ce que Macron n'aime pas, ce sont les mots précisément très politiques, ceux qui sont habituellement ceux qui font clivage gauche-droite. Et donc là, il va se méfier de ces mots parce que les utiliser, c'est valider l'idée qu'il y a un clivage gauche-droite et peut-être même se situer dans ce clivage-là. Donc par exemple, le terme de pauvreté, il va éviter le terme de pauvreté qui, est, évidemment, on le voit tout de suite sur un terrain social un peu brûlant. Il n'aime pas trop non plus le terme de justice qui est sans doute ambigu sémantiquement, qui est compliqué sémantiquement à manipuler. Ça peut être la justice avec un grand J ou l'institution. Ça peut être aussi des phénomènes d'injustice, mais il va s'en méfier. Plus généralement, ce qui peut caractériser son discours et qui fait un peu rupture avec les quinquennats précédents, c'est qu'il va refuser, Macron, de s'enfermer dans le vocabulaire économique qui a envahi un peu le discours présidentiel depuis les années 80, mais particulièrement sous Hollande ou sous Sarkozy, où on sent un peu des présidents presque plutôt ministres de l'économie et garants de la courbe du chômage notamment. Donc ces présidents ministres, en quelque sorte, lui, pour donner une sorte de hauteur à la fonction présidentielle, il ne va pas s'enfermer, comme a pu le faire notamment François Hollande, sur la courbe du chômage, bien sûr, mais aussi le taux de la TVA, le chiffre qu'il y a après la virgule pour en ce qui concerne les impôts ou pas les impôts. Il va plutôt éviter ce domaine économique pour parler plus des questions sociétales, voire régaliennes, en tout cas dans la dernière période, peut-être pas au début, mais dans la dernière période.
On va en reparler de cette dernière période parce que vous consacrez tout le début du livre à ces prises de parole très spécifiques liées à la crise et à la pandémie. Mais avant, peut-être un mot sur l'analyse. Du coup, une fois qu'on a mis au clair tous ces éléments factuels qu'on vient de lister, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que ça nous dit de la pensée politique d'Emmanuel Macron, ou en tout cas de ce qui ressort de cette pensée politique dans ses discours?
C'est toute l'ambiguïté, et tout le côté mystérieux qui reste mystérieux, c'est qu'on sent qu'il y a une sorte de proposition libérale, sociale-libérale, ou on peut dire aussi libérale-libérale, donc libérale aussi bien du côté de la société que du côté de l'économie, qui est affirmée, mais elle est toujours affirmée en demi-teinte. Et c'est ça la difficulté de la description du discours. Il y a par exemple de longs passages où Macron fait l'apologie de l'individu, mais dénonce l'individualisme. Alors on est dans cette nuance-là, donc évidemment la libre entreprise, évidemment l'individu comme moteur. Macron a des postulats libéraux très affirmés, en tout cas au début du quinquennat, un peu moins avec la crise du Covid, où il va venir sur des positions keynésiennes. Mais la difficulté, donc, c'est que ce message libéral est tout le temps un peu en excuse ou en clair-obscur, qui va être très souvent nuancé par d'autres propositions. Donc, en fait, il essaye de théoriser, avec notamment les démocrates américains, un libéralisme solidaire. C'est comme ça qu'on peut le qualifier, ou un social-libéralisme, on l'a qualifié en Europe plutôt comme ça. Mais je crois que c'était surtout un libéralisme solidaire à la Rawls, un penseur donc américain. Et le problème de Macron, c'est qu'il s'est privé très précocement dans son quinquennat, précisément du mot, on en revient toujours au mot, mais du mot « solidarité ». Solidaire. Donc, il n'est resté que le libéralisme sans la solidarité. Quand je dis qu'il s'est privé du mot, c'est évidemment, je pense à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. En supprimant cet impôt, symbolique par ailleurs, mais il s'est surtout privé d'un levier lexical qui était nécessaire à sa pensée en même temps, libérale mais solidaire. Et en se privant de l'impôt de solidarité, il a un peu déséquilibré son discours. Et il l'a rendu, du coup, plus difficile à décrypter. Moi, je le qualifie aussi, qu'est-ce qu'il en ressort ? Moi, je qualifie ce discours, même si la référence est peu connue, de néo-Saint-Simonisme. Saint-Simon est un penseur du XIXe siècle qui a, au fond, théorisé l'industrialisme, c'est-à-dire le progrès technique via l'industrie, comme moyen de dépasser les conflits sociaux, comme un moyen d'élever l'ensemble de la société, comme un moyen, au fond, de dépasser la lutte des classes. Il n'y avait plus d'inégalité sociale par le fait d'un progrès technique, d'un progrès scientifique, d'une industrialisation. Toute la France et tout le monde et toutes les personnes seraient élevées par le haut. Je crois que Macron renouvelle cette pensée-là, sauf qu'il remplace simplement l'industrialisme par le digitalisme. Et il pense que les progrès techniques de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, dont il fait une grande publicité, du numérique de façon générale, va permettre, au fond, de dépasser le problème, on va dire socialiste, de l'inégalité de revenus ou de la répartition des richesses. C'est pas ça la question, c'est plutôt comment tout le monde pourra accéder à cette richesse grâce à une croissance, un progrès scientifique. Donc voilà, c'est un néo-saint-simonisme, bon, évidemment, qui a été un peu bousculé par le Covid, pour bien des raisons que je pourrais expliquer, mais qui est, je pense, le socle de sa pensée.
Bah alors justement, venons-en à ces discours autour de la période du Covid, puisque c'est un peu le grain de sable dans la machine, si vous me passez l'expression. Est-ce que ces prises de parole, elles ont un impact fort sur la pensée, sur le verbe macronien tel qu'il était jusque-là ?
Oui, et il en est conscient, donc il va essayer de corriger en quelque sorte les dérapages qu'il est obligé de faire, dérapages contrôlés, dérapages un peu moins contrôlés. D'évidence, ça modifie les choses à tous les niveaux, j'allais dire fondamentaux du macronisme. J'en ai pas encore parlé, mais une de ses professions de foi les plus fortes, c'est évidemment le discours et le message européen. Donc, j'en ai pas parlé précédemment, mais en tout cas, en ce qui concerne le Covid, on comprend bien que la question de l'Europe, qui était au cœur de son originalité quand même dans le débat politique français, est un peu contestée et un peu mise à mal par les égoïsmes nationaux qu'on a vus, par le fait que l'Europe, tout simplement, n'était pas habilité à traiter de la question sanitaire, n'est pas habilité par la nécessité d'avoir une sorte d'indépendance nationale au niveau, je ne sais pas, des vaccins, des masques ou d'autres choses. Donc, cette profession de foi européenne est ébranlée. Alors, on sent l'effort de Macron de rattacher néanmoins, malgré tout, malgré ce que l'on a vu sous nos yeux se dérouler, c'est-à-dire l'éclatement, plus ou moins, sans parler du Brexit, hein, mais de l'Europe quant au la politique sanitaire, chaque pays faisant sa législation, etc. Donc lui, de rattacher ça quand même à l'idée qu'on s'en sortira tous ensemble et dans le continent européen. Ça, c'est un des premiers aspects qui est évident. L'autre aspect qui est encore plus évident, c'est sur les prises de position, évidemment, économiques. Puisque là où il s'inscrivait dans ce néolibéralisme qui a triomphé dans le monde et en Europe depuis une vingtaine, une trentaine d'années, Macron s'inscrivait complètement dans le cadre de ces politiques-là, de libérer le marché du travail, par exemple, qui a été un peu un acte fondateur du macronisme en 2017, dans les premières mesures. Donc, ce message-là, évidemment, très libéral, il est contesté par le retour de l'État-providence et par le besoin, on va dire, de sécurité sociale, pour employer une expression connue, mais de sécurité sanitaire assurée par les autorités. Et surtout par la façon dont l'État a béquillé en quelque sorte l'économie et les entreprises avec le soutien aux salariés, le soutien aux entrepreneurs, le soutien à tous les niveaux à peu près des échelons de la production économique. Et bien donc, Macron est obligé de s'adapter et changer son discours. Alors là, il y a des choses très très spectaculaires et qui désarçonnent un peu l'analyse du discours que je suis. On l'a tous noté à la télévision ou ailleurs, en 6 mois pratiquement, l'affirmation devant une infirmière de Rouen, je crois, qu'il n'y avait pas d'argent magique, et puis 3 mois après, devant quasiment la même infirmière, promettant que quoi qu'il en coûte, on soutiendrait l'hôpital public. Donc, de la même manière, les prises de position de Macron sur la nécessité de privatiser les aéroports de Paris, et puis ensuite quasiment de nationaliser Air France. Donc là, il y a quand même un changement à 180 degrés qui est un peu compliqué à suivre au niveau du discours, mais que Macron, justement, réussit par son habileté rhétorique à habiller dans une forme de pragmatisme, par exemple, vu qu'il se revendique du pragmatisme. Ben, le pragmatisme, c'est aussi réussir à changer de position quand il le faut, et puis une affirmation libérale sous-jacente qui reste que, quand même, il n'y a pas d'autre alternative fondamentale. Donc voilà, ça fait au moins 2 raisons qui expliquent le changement assez brutal du discours, donc l'Europe et l'économie. Il y a quelque chose de peut-être encore plus fondamental, même si c'est moins apparent dans le discours, mais c'est ce fameux saint-simonisme. Il y a l'idée chez le jeune Emmanuel Macron que la science, et je répète, le progrès, la croissance va résoudre les problèmes sociaux qui se présentent au pays ou au monde entier. avec tout simplement, en quelque sorte, on peut le dire comme ça, l'échec de la médecine au moins pendant un an et demi pour guérir et la réalité des 100 000 morts en France, il est difficile de continuer à tenir ce discours. Le progrès va nous sauver, on va vers un avenir meilleur et lumineux grâce à la technologie, grâce à une santé qui va toujours s'améliorer, etc. Et donc, il est obligé de faire une sorte de concession que peut-être la croissance n'est pas la solution à tout. Peut-être que la science a ses limites et peut-être qu'il y a d'autres formes au fond de solidarité, et pas simplement une solidarité dans le progrès qui doit être mis en œuvre par l'État. Et évidemment, ça le fait un peu changer de pied par rapport à la tonalité générale de son discours depuis 2016, depuis 2017.
Et le livre de notre invité, Macron ou le mystère du verbe, qui est paru, on l'a dit, aux éditions de l'Aube, il se termine sur un discours généré par ordinateur, celui de la déclaration potentielle de candidature d'Emmanuel Macron à sa réélection. C'est assez troublant, on s'y croirait. Merci à Damon Mayafre pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.